Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui n'a pas rêvé un jour de partir, de prendre la tangente, comme on dit, et qui plus est de partir dans un lieu désertique, gavé de silence. Vous en rêviez, les Goums l'ont fait, pourrait-on dire. Les Goums, une proposition vieille de 50 ans, de marche au désert, en France et ailleurs. Une semaine avec au programme plus de 25 km par jour à l'azimut, des nuits à la belle, et pour tout repas, un bol de riz. Mon Dieu, pourquoi me direz-vous ? Réponse dans cette émission. Cette émission Goum, partir au désert en France, thème de cette émission Vivante Église pour découvrir cette grande aventure des Goums. Autour du plateau, honneur aux dames Hermine Parpaillon, vous êtes enseignante et goumière, bonjour.
Bonjour.
Xavier Hermès, vous êtes lanceur de Goum et avec nous par téléphone, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, et Stéphane Aubugeot, vous êtes prêtre du diocèse de Cahors et vous-même lanceur de Goum, bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Xavier Hermès. Vous êtes en voyage, mais vous êtes parmi les fans. Je ne sais pas si on dit fan tout à fait. Hein, c'est pas la culture de la maison, mais vous êtes en tout cas parmi les anciens de ce mouvement. Vous êtes donc ce qu'on appelle un lanceur dans le jargon. Vous allez nous raconter un petit peu la grande aventure de ces Goums. Je disais, les Goums, c'est partir au désert. Alors en France, même si maintenant il y a des Goums ailleurs qu'en France, est-ce que pour résumé d'une phrase, c'est une phrase qui vous va, partir au désert. On a presque l'impression que c'est s'autoriser à s'extraire du quotidien et trouver un désert presque dans un quotidien. Est-ce que partir au désert en France vous va comme label ?
Oui, alors le mot désert, effectivement, nous va bien. C'est quand même un des fondamentaux qui nous lie, hein, qui a fondé l'aventure des Goums. C'est vraiment partir, larguer tout. Hein. Michel Menu parlait dans un de ses livres, de larguer tout, on largue nos petites servitudes du quotidien, l'argent, les téléphones, le tabac, tout ce qu'on peut, et nos papiers d'identité, et on part au désert pour se refaire une unité complète. Donc voilà, je sais que le père Stéphane voilà, aura l'occasion d'en parler plus longuement après moi. Mais oui, c'est un fondamental important pour nous, le désert, bien sûr.
Alors parlez-nous de ce Michel Menu. Michel Menu est décédé en 2015. J'ai retrouvé un beau portrait de Luc Adrian qui avait été fait dans Famille Chrétienne. Le grand goumier s'en est allé. Et le sous-titre, c'était « Figure légendaire du scoutisme français, le lanceur des Goums vient de mourir à 99 ans ». C'était, semble-t-il, une force de la nature. L'aventure des Goums a commencé avec ce Michel Menu. On reviendra un petit peu après sur son parcours, mais comment tout a commencé ? Comment a-t-il eu l'idée des Goums ? Et à quoi ont ressemblé ses premiers Goums ?
Oui, alors, c'est un témoignage un peu contre nature, parce que Michel avait horreur qu'on le mette en avant. Mais
Il est parti maintenant, donc on peut se l'autoriser. C'est...
Je pense qu'il ne nous en voudra pas. Effectivement, les Goums sont nés en 1969 et c'est parti d'une demande de son fils et d'une bande de copains. Son fils qui avait, je pense, 18, 20, 22 ans et qui avait une semaine à tuer pendant ses vacances, là, au mois d'août, au mois de juillet. Et il a dit, papa, on ne sait pas trop quoi faire. Et Michel, fidèle un peu à son expérience, on pourra y revenir, a dit, bah écoutez, si vous ne savez pas quoi faire, je vous propose un raid à la boussole de 100 km en ligne droite dans le Vercors. Donc ils sont partis, ça s'appelait pas encore les Goums à l'époque, ils sont partis avec sac à dos, des poules,
Et ils avaient quel âge ? Ils avaient quel âge, vous disiez ?
Ils avaient 18-20 ans, c'était les Goums s'adressent aux jeunes de 20 ans et c'est né de ça. Ils avaient terminé leur parcours scout pour certains d'entre eux, pas tous, ils étaient étudiants, ils avaient fait un peu de route chez les scouts, pas tous, et ils sont partis à 5 ou 6 dans le Vercors. Et puis ça aurait pu s'arrêter là. Et l'année d'après, le fils de Michel, Paul, je crois, dit « Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On repart cette année parce qu'on est 5, mais là j'ai 15 candidats. » Et là, Michel s'est dit... donc la première marche vers Corse, c'était 68. Ça s'appelait pas encore les Goums. Et là, Michel s'est dit « Ah ben, il y a peut-être quelque chose à théoriser, à formaliser et à lancer. » Et en 69, ils se sont trouvés un nom, ils se sont donné une tenue, et puisqu'ils ont adopté ce que nous appelons la djellaba, un manteau de bédouin pour partir au désert, et ils sont partis. Et petit à petit, ils ont affiné la méthode. L'année d'après, ils ont supprimé les poules et la viande et tout, ils n'ont mis que du riz. Et puis voilà, petit à petit, la méthode s'est affinée. Mais dès 69, c'est le premier raid fondateur. Ils sont partis à 20, une petite vingtaine, un peu moins, je crois. Et il y avait un premier Goum est né en 69. Et ils sont partis dans le Causse, dans le désert des Causses en France, qui est qui est un des rares endroits, enfin, il y en a quelques-uns, où on peut marcher pendant 8 jours sans rencontrer quasiment personne et des paysages magnifiques à perte de vue.
Voilà, d'ailleurs, on trouve sur votre site internet une espèce de benchmarking des zones blanches des grands opérateurs de téléphone, Free, Bouygues Télécom, SFR, etc. Et on voit que c'est la zone blanche en France. Donc, vous savez, vous êtes discret, mais vous savez vous vendre. Michel Menuge, donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Donc, vous l'avez dit, cette année, vous fêtez vos 50 ans. D'ailleurs, les Goom se sont fixés, je crois, un objectif ambitieux qui est d'organiser 50 Goom, 50 raids à l'occasion de cet anniversaire. Michel Menuge était un résistant, semble-t-il. Il n'aimait pas parler de cette époque, mais puisqu'il est parti, on va s'autoriser peut-être à en dire davantage. Qu'est-ce qu'on savait de son parcours de vie? Qu'est-ce que vous saviez au sein des Goom?
Alors, Michel, effectivement, c'est quelqu'un d'assez complet. Hein. Je crois que pour bien comprendre Michel, je pense qu'il faut remonter à son adolescence dans les années 30. Où son père et ses oncles, certains ont été gazés dans les tranchées de 14. Et donc il est né en 1916, il est né le 3 février 1916 à Secondigny en Vendée. Et il a connu dans les années 30, notamment les mouvements du Père Doncoeur, avec la route du Père Doncoeur, les cadets, qui cherchaient vraiment à redresser, à reformer une jeunesse qui avait vraiment été saignée à blanc par la guerre 14. Donc je crois que ses premières vocations sont nées là. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale a saisi tout le monde de plein fouet. Michel s'est engagé. Il fait partie des SS. Il a été parachuté sur la France. Il a été prisonnier trois fois. Il s'est évadé trois fois. Ça aussi, ça a dû forger et marquer son tempérament.
Il est devenu il est devenu résistant après, hein, c'est ça, chef du service évasion.
Exactement, il a dirigé un service évasion à Lyon avec des fabriques de faux papiers, il organisait des évasions dans les camps. Et ça, c'est très révélateur, c'est-à-dire que Michel racontait, il parlait pas beaucoup de ses aventures, sauf avec certains officiers militaires avec qui il pouvait partager certaines choses, mais il nous disait souvent, je l'ai entendu plusieurs fois nous dire, en 40, il y a eu 2 millions de prisonniers, il y a eu 22 000 évasions. Sous-entendu, pour faire bouger les choses, généralement, on n'est pas nombreux. Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour que dans cette jeunesse, il y ait ces 22 000, 25 000 qui se lèvent et qui refusent la médiocrité, qui refusent de subir et qui cèdent et qui entraînent les autres? Parce que c'est pas une aventure individuelle, c'est pas le surmoi, c'est pas le super-héros, c'est je me lève et je marche devant. Dans un texte connu, il dit marcher devant, toujours devant. Si on marche devant, c'est bien qu'on entraîne les autres derrière soi. C'est pas le mythe du résistant héros, c'est vraiment j'entraîne les autres et je fais bouger les choses.
On y reviendra, hein, parce que c'est vrai qu'on sent derrière les Goom que ça n'est pas qu'une retraite au désert. Il y a comme quelque chose d'un rite initiatique qui est proposé à la jeunesse, un lieu de découverte de soi, de dépassement de soi pour devenir, on va dire, des hommes, des femmes et des vrais. Je reprends une expression de Luc Adrien, ce journaliste de Famille Chrétienne. Il disait que c'était un Vendéen au visage d'aigle à la Beckett. J'ai lu aussi qu'il était réputé pour être un chef doux, charismatique et exigeant. Vous qui l'avez connu, comment vous le décririez?
Alors, Luc Adrien l'a très bien décrit. C'était quelqu'un effectivement de très exigeant. Moi, je l'ai connu évidemment dans la fin de sa vie. De mon premier raid avec lui en 93, et il a fait son dernier raid à l'âge de 87 ans, au tout début des années 2000, 2001 je crois ou 2002. C'était quelqu'un de très exigeant.
Qui se levait à 5h du matin. Il se levait à 5h tous les matins. Faut le préciser quand même.
Au minimum.
Je ne sais pas s'il réveillait sa femme, mais.
Ah, la Madeleine, elle était, c'était, on peut pas non plus comprendre Michel sans Madeleine, mais ça, il y aurait beaucoup à dire. Michel se levait effectivement très tôt, il partait jusqu'à sa mort, hein, jusqu'à 99 ans, depuis qu'il est parti dans sa 30e année, il allait tous les jours marcher 2 heures au parc de Saint-Cloud, puisqu'il habitait Saint-Cloud. Et effectivement, c'était, quand on pense à Michel, on pense nous déjà à un marcheur infatigable. Un homme de raid, hein, la mystique du raid est très importante chez lui, qu'il a forgé dans les années 30 et puis pendant la guerre. Et puis, vous l'avez dit, et Luc Adrien l'a dit, exigence et bienveillance. Je pense que certains qui ont marché avec lui, il y en a qui accrochaient, il y en a d'autres qui n'accrochaient pas avec Michel. Hein, il avait son caractère, il avait une vision de l'exigence qui nous demandait. Et il avait parfois des expressions et des réflexions un peu à l'emporte-pièce, mais toujours une grande bienveillance, un grand souci de l'autre, un grand souci de tirer les jeunes vers le haut. Dans un de ses maîtres livres qui s'appelle « Art et technique du scoutmestre », il y a tout un chapitre qui s'appelle « Daniel ». Daniel, comme il aurait pu l'appeler Paul, Jacques, Jean, et il y a une belle photo d'adolescent là. Et ça résume beaucoup de choses. C'est pour lui, comment je fais en sorte que le jeune qui est avec moi, il puisse s'épanouir en fleurs et en fruits et qu'il puisse faire quelque chose de sa vie. Et ça, c'est un enseignement, voilà, ça reste gravé. Pour la vie, quoi.
Alors avant de vous profiter encore de votre présence, Xavier Metz, parce que vous allez nous quitter au moment de la première pause musicale, vous les avez connus, vous alors Hermine Parpaillon, je vous ferai pas l'injure quand même de vous demander si vous avez connu Michel Menu, quoique peut-être, non ? Non. Et vous, Père Stéphane Aubujou, est-ce que vous l'avez croisé ? Vous avez juste entendu parler de cette légende, c'est tout ?
Je l'ai croisé parce que j'ai lancé mon premier Goom en 2003, et à l'époque on disait, bon bah, viens voir va voir le sage, et j'ai présenté mon projet de Goom. Il a regardé vaguement, très rapidement, il m'a dit, tu sais, cette année, ça va faire à peu près le millième Goom, il n'y en a pas un qui s'est arrêté en route. Alors j'ai compris, quelques semaines après, que j'avais pris un parcours très ambitieux et qu'il était en train de me dire, bah, mon petit, il va falloir assumer ce que tu as, projeté.
Alors, Xavier, mais comment vous résumeriez le concept ? Parce que je me rends compte qu'on en a parlé, mais de manière elliptique. Voilà, en quelques phrases, c'est quoi un Goom ?
Alors, un
qu'est-ce
Goom,
qui se passe ?
C'est un raid de 8 jours au désert, dans un endroit désertique. En France, beaucoup dans les côtes, mais il y a d'autres endroits. Il y en a eu en Terre Sainte, il y en a au Maroc, il y en a eu en Algérie, il y en a eu en Turquie, il y en a eu pas mal d'endroits. Il y en a même aux États-Unis depuis l'année dernière et encore cette année. C'est un raid de 8 jours où on largue vraiment nos servitudes quotidiennes et on s'embarque avec par tribu de 15-20. On dort à la Belle Étoile. Donc avec 4 objectifs, Stéphane pourra y revenir tout à l'heure. Un objectif de pleine santé du corps, de liberté de l'esprit, de relations fraternelles authentiques et de foi rayonnante. Donc dans les 4 dimensions de la personnalité pour refaire son unité et avoir pendant 8 jours un moment privilégié de calme, de marche, de nature, de relations authentiques pour vraiment se refaire une unité.
Alors refaites-nous les 4 points fondamentaux, redites-nous les 4 pattes rapidement.
Pleine santé du corps par la marche au long cours, on marche 6 à 8 heures par jour.
Oui.
Liberté de l'esprit, par les grands espaces, le silence, la beauté qu'on se met dans les yeux, la libération de notre servitude, je disais, téléphone, tabac, papier, argent, on part sans tout ça. Relation fraternelle authentique, parce que on est là au service des autres et on part souvent avec des personnes qui ne se connaissent pas au début. Et puis, la magie prend. Au bout de 8 jours, quand on part à 15, 20, ben, ça devient des frères. Et puis, quatrième pilier qui, j'allais dire, et le coiffe tous les autres, c'est la foi rayonnante qui découle de ces 3 premiers. La foi peut germer sur des corps et des esprits disponibles. Et donc, on a une heure de méditation quotidienne, la messe quotidienne pour ceux qui le souhaitent. Parfois, certains viennent dans nos raids et sont baptisés de loin ou un petit peu largués tout ça et reviennent un peu découvrir une expérience authentique. Ça peut être un redémarrage parfois. Donc voilà les 4 dimensions fondamentales, mais Stéphane qui a fait...
Oui, on y reviendra. On y reviendra avec lui après.
Une cinquantaine de raids, c'est bien plus que...
On y reviendra et on profitera donc d'avoir la présence d'un padré, puisque c'est comme ça que vous appelez les prêtres, puisqu'il y a toujours un prêtre accompagnateur pour chacun de ces Gooms. Dernière question sur le succès des Gooms. Avant qu'on fasse cette première pause musicale promise, j'ai lu qu'on en était à plus de 1000 raids et que 15 000 jeunes et moins jeunes avaient marché, 15 000 Goomiers. Racontez-nous un peu ce succès en France et éventuellement à l'étranger.
Oui, alors c'est... Évidemment, les Gooms, on ne cherche pas à faire du quantitatif. On est là pour vivre des moments forts et on essaye vraiment d'être dans le qualitatif. Néanmoins, il y a eu une première période de 10 ans des années 70 où c'était un peu la période des pionniers. On a ajusté la méthode, il y a eu quelques dizaines, trentaines de raids. Puis, dans les années 80, l'essor a commencé, notamment grâce à un article de Famille Chrétienne, je crois au milieu ou fin des années 80, qui a vraiment fait que, depuis maintenant une 20, 30 ans, il y a entre 20 et 40 raids chaque année qui s'organisent de façon très informelle. Voilà, il y a un garçon ou une fille qui a marché 2 fois et qui dit, ben, allez, moi j'ai accroché, l'année prochaine, j'en organise un. On dit chez nous, je lance un raid. Et puis ça s'est répandu beaucoup par le bouche à oreille. Vraiment, quelques articles de presse et le bouche à oreille. fait qu'aujourd'hui, je pense, vous dites 1000, mais je pense qu'on est sans doute à 1500, 1800 raids, il faudrait faire le décompte exact, et sans doute 15 ou 20 000 goumiers. Voilà, c'est une méthode qui ne fait pas de bruit, mais qui, pour beaucoup de ceux qui l'ont tenté, apporte vraiment une expérience de liberté très forte. C'est le titre d'un des livres de Michel, Les Goums, une expérience de liberté. Et je crois que c'est un de vos thèmes aussi dans l'émission qui suit. C'est un fondamental très important pour nous.
Eh ben, merci beaucoup Xavier Hermès d'être venu au micro de cette émission, en ce début de cette émission sur les goûts. On va faire une première pause musicale et puis on va vous retrouver nos autres invités pour essayer de creuser dans cette deuxième partie quels sont, on va dire, les grands traits de cette aventure spirituelle. Et on essaiera de pas trop décoller, même si on imagine que parfois le désert et ses grands espaces peuvent être sujets à des grandes évasions mystiques, vous nous direz ça. Et puis Hermine, à la fin de cette émission, nous partagera son expérience.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Goum, partir au désert en France, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On part à la découverte de cette grande aventure des Goum qui fête en 2019 leurs 50 ans, fondée par le très discret Michel Menu, qui n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui, mais qui aujourd'hui est en partie à l'honneur, donc figure de la résistance, qui voulait offrir particulièrement aux jeunes une expérience fondatrice et donc une expérience entre autres de désert. Pour nous en parler, nous étions au début d'émission avec Xavier Hermès, lanceur presque historique de Goum. Le père Stéphano Bugeaud, prêtre du diocèse de Cahors, est avec nous en plateau, et Hermine Parpaillon, qui est enseignante et elle-même goumière. Alors, père Stéphano Bugeaud, les Goum, semble-t-il, vous les avez connus avant de vous lancer dans la prêtrise. Comment vous avez connu les Goum, et est-ce que ça vous a mis en chemin quelque part vers la prêtrise aussi? Est-ce que ça a eu un rôle?
Alors, oui, ça a eu un rôle. Ça a eu un rôle. Mon chemin vers la prêtrise a pris du temps. Et au fur et à mesure que...
Parce que vous êtes un jeune ordonné, il faut le dire.
J'étais ordonné à Rocamadour en juillet 2017.
Et vous avez quel âge?
45 ans.
Voilà. Il en a fallu des Goum.
Il en a fallu des Goum, tout à fait. J'ai rencontré les Goum par un ami et un événement, qui était un événement plutôt négatif, une rupture. À cette époque, j'étais dans la marine, et sur ce bateau, nous avions une vie communautaire assez prégnante, et on se connaissait, et il avait observé chez moi, je ne sais pas pourquoi, quelque chose qui lui faisait dire que ces goûts me convenaient. Alors il me dit, tu sais Stéphane, il faudrait que tu fasses les goûts. Alors je demande, mais c'est quoi? Oh, tu sais, on mange du riz, on marche, ouais. Alors j'ai dit, très bien, j'ai pris le numéro de téléphone de monsieur Jean Latil. J'ai noté sur mon calepin, j'ai refermé le calepin et l'affaire était classée. Je n'ai jamais contacté Jean Latige jusqu'au moment où il y a eu un événement qui m'a mis un peu au pied du mur. J'ai rouvert mon calepin et j'ai contacté Jean Latige et j'ai fait mon premier goum en 2001.
Et le souvenir que vous avez de votre premier goum?
Un très bon souvenir. Je suis tombé sur un lanceur qui était vraiment très très humain.
Pas comme ça veut moi. Dire qu'il y en a qui ne le sont pas.
Non, mais... Et du coup, on était 14 nouveaux à ce goum-là. Alors, il savait qu'il n'allait pas avoir une équipe de première force. Et j'ai des anecdotes, mais on va les placer.
On va les découvrir. On s'est dit donc qu'on allait souligner trois points de cette expérience, en essayant à chaque fois de partir d'une chose vécue, et pour après en tirer peut-être un enseignement spirituel. Et donc le désert, la liberté et la fraternité, c'est pour vous trois grandes choses qui traversent ces expériences. Vous vouliez commencer par le désert et puis nous donner une citation, oui. Qui est de Michel Menu.
Oui, c'est simplement pour introduire. Pour ces Goum, le désert n'est pas un simple objet de curiosité ou une occasion d'aventure plus ou moins pittoresque. Le désert, pour eux, est un lieu sacré. Alors, le désert, c'est, comment dire, un mot qui parle à notre imaginaire et qui va nous aider à rejoindre quelque chose de concret. Quand on commence un goum, on se rassemble dans la vallée, chaque goumier est arrivé avec son sac à dos, s'il a bien écouté les conseils du lanceur, pas trop lourd. D'autant qu'il s'aperçoit qu'il y a du matériel commun à se partager. Alors, au bout d'un moment, on a mis toutes nos affaires, on a rempli nos gourdes, on a sorti les cartes, et puis le lanceur explique globalement, alors vous avez compris, hein, l'organisateur, on dit lanceur, on va là-haut. Et là, fini, on a vraiment pris cette décision. Et là-haut, c'est quoi? Là-haut, c'est le désert. Enfin, dans la géographie du Causse, c'est comme ça.
Donc la Causse, c'est grand plateau presque désertique.
Oui, c'est à perte de vue. C'est un grand plateau calcaire où on élève souvent que des brebis.
C'est pas là où on irait naturellement aussi, c'est ce qu'il faut dire.
Oui, d'ailleurs, dans la vallée du Tarn, les touristes restent bêtement, j'ai envie de dire, dans la vallée. Ils vont jamais voir les beaux paysages qu'il y a sur le Causse-Méjean. C'est bon, c'est comme ça. Donc, nous y allons et nous y allons à pied. Et donc... les sacs sont fermés, on commence à marcher et on commence à faire un effort. Et c'est le premier point, de la spiritualité du désert, c'est que cet effort pour y aller qui fait que l'effort du corps va permettre, nous déjà, à nous mettre dans la réception de la parole de Dieu. Vous savez, il y a le verset qui précède les Béatitudes, Jésus voyant la foule gravit la montagne. Ses disciples s'approchèrent de lui. Jésus voyant la foule, il a l'impression qu'il snobe la foule, il part en hauteur. Eh bien nous, les goumiers, on fait un peu pareil, on part en hauteur. Et l'effort que fait les disciples pour suivre Jésus va permettre à Jésus de semer la parole des béatitudes. Eh bien nous, c'est pareil. Le désert est le lieu où résonne la parole de Dieu, et nous y allons avec un saint patron qui est Jean-Baptiste, qui est aussi un homme du désert.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, vous partez au désert, mais chacun, il y a une messe je crois le matin, c'est ça?
Oui.
Et après, chacun part avec la parole de Dieu, chacun a une espèce de fil conducteur où chacun vit sa vie avec sa Bible et en marchant et en regardant, en regardant le paysage.
Très, très bonne question. Le désert, c'est à la fois un espace à contempler, un terrain qui nous appelle à avancer vers lui. Chaque matin, le lanceur va dire « ce soir, nous nous retrouverons sur à tel endroit ». Alors le désert, parfois il y a des chemins, mais parfois il n'y a pas de chemin. Donc chacun va choisir son chemin pour rejoindre, et chacun va y aller à son rythme. Avec un peu de chance, s'il ne se perd pas, il arrive au point B.
Attendez, on y reviendra sur la question de la liberté. Ma question c'était davantage, quel est le sac à dos spirituel en fait du goumier? Il a cette messe le matin, et après on l'invite à marcher, mais entre guillemets il vit sa vie avec la parole de Dieu, c'est ça? Ou il n'y a pas de trame spirituelle ou d'enseignement ou de sujet
non,
de méditation?
Il n'y a pas d'enseignement, il y a l'homélie, il y a la messe tous les matins effectivement, et il y a un temps de méditation avant. Mais le temps de méditation, il est lancé lui aussi par 10 minutes d'un texte biblique qui est commenté pas forcément par le prêtre, même souvent plutôt par le goumier. Un goumier qui se sent de commenter ce texte qui le touche particulièrement et il dit pourquoi il le touche. Et après, il y a une heure de méditation en silence.
Voilà, ça c'est avant de partir le matin.
Oui, ça c'est avant de partir.
Vous vouliez nous raconter une anecdote pour ce premier aspect qui est le désert. Racontez-la.
Oui. Oui, alors le désert, c'est un lieu qui nous met en marche parce qu'il y a ces horizons. Je me souviens que nous avions fait une reconnaissance en Turquie. Et pour faire cette reconnaissance, nous l'avions fait à la mode Goum, mais j'avais pris un guide. Et le guide était très, très désarçonné parce que c'est la première fois qu'il vivait quelque chose comme ça un jour. Et il rencontre un paysan turc qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là à marcher tout seul ?» Alors il lui dit « Ben... je suis guide. » Et, ah oui, tu es guide. Où est ton groupe? Alors là, il fait un large mouvement du bras. Il couvre tout l'horizon et dit « Ils sont tous là-bas, par là !» Alors le paysan lui dit mais quelle sorte de guide es-tu ? » Alors il était un peu décontenancé lui-même parce qu'il n'avait pas de mots pour dire ce qu'il était en train de vivre. Et voilà, nous sommes devant chaque matin, devant notre carte. Chacun fait son choix pour rejoindre le groupe, le bivouac du soir.
Alors, le deuxième point que vous vouliez souligner, c'était la liberté. Cette fois, c'est moi qui vais commencer par une citation qui dit un peu le tempérament de Michel Menu. Elle est deux citations. « Quand une civilisation périclite ou qu'une église semble à l'agonie, quand un peuple se couche ou capitule devant son destin, ce n'est jamais, quoi qu'on dise, la morale d'abord qui fout le camp, le civisme ou la foi qui meurt. C'est toujours d'abord l'homme qui périclite, se meurt ou capitule. » Ça, c'est Michel Menu, dans un ouvrage intitulé « Les Goums, une expérience de liberté ». Et une autre citation tirée d'un autre ouvrage s'appelle « Repère ». Aucun diagnostic, nous assure-t-il, n'autorise à prétendre que les jeunes de 20 ans aient été génétiquement moins bien servis que leurs aînés, et ils s'insurgent comme une forme de contre un malaise qui traverse la jeunesse aujourd'hui et un sentiment d'impuissance. Le deuxième point que vous vouliez souligner, c'est donc la liberté. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette expérience de liberté que vous allez décrire, on a l'impression, voilà, c'est ce résistant, il voulait offrir un moment dans la vie de ces jeunes, comment dire, un moment un peu à part, de dépassement de soi qui ressemble un peu à un rite initiatique, non?
Alors, la liberté, je crois qu'il faut la lier à l'idée du délestage de tout le superflu. La liberté, il faut la lier à l'idée de la pleine santé du corps. Parce que pour Michel Menu, comme beaucoup de gens spirituels, hein, tous les grands ordres religieux ont lié la libération de l'âme à la pauvreté, et il y a de liberté quand on est vivant. Et on est en train de lutter pour rester des personnes pleinement vivantes. Et c'est pour ça qu'il utilise des mots forts. Lorsque nous commençons un goum...
Ça veut dire quoi, on est en train de lutter pour rester des gens vivants? Vous parlez de quoi, en fait?
Ça veut dire que...
Le contexte actuel...
Dans notre société, le corps, se restreint souvent à la vue qui est en lien en permanence avec des écrans, mais un corps, c'est pas seulement des yeux. Ça, il faut que tout fonctionne, et en particulier la marche, c'est très important pour tout le rythme de la circulation sanguine, pour tout le rythme cardiaque. Et quand on fait un goum, on se rend compte qu'à la fin d'un goum, on est beaucoup plus en forme qu'au début. Bon, on a une fatigue à rattraper, mais je vous garantis. Quand on commence un goum, on se déleste du téléphone portable, justement. On se déleste de l'argent, des bijoux, de sa montre. Donc, cette pauvreté relative nous emmène vers un chemin déjà de liberté de l'esprit. L'esprit, quand il n'a plus ses objets qui le ramènent toujours aux mêmes préoccupations, il peut penser à autre chose. Et au fur et à mesure que le goum se déroule, nous découvrons que nous sommes plus en forme, plus capables. Et nous avons des possibilités nouvelles. Cette liberté, elle peut s'exercer dans le service des autres. Hein, nous avons le don de soi, ça fait partie des valeurs du goum.
Donc là, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est de se détacher du quotidien, se détacher de, enfin dire, du téléphone portable et autres servitudes, comme vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Alors, c'est une liberté qui nous permet aussi de prendre du recul par rapport à notre vécu habituel, parce que quand on est dans le désert, on prend et on va pouvoir prendre des décisions importantes dans nos vies. Vous avez noté que il m'a fallu un certain nombre de goums pour devenir prêtre. Donc, vous voyez.
Alors là, quel est l'enseignement spirituel ou quel est le trait de la spiritualité du goum là? C'est
vous savez, nous sommes dans la religion de l'incarnation, et donc il n'y a de liberté que dans un corps vivant, et nous retrouvons le rythme du corps. Michel Menu disait quand le corps retrouve ses rythmes, l'esprit reprend de l'altitude. Et c'est cette altitude dont on a besoin pour être libre, parce que nous avons des décisions à prendre dans nos vies. Je voudrais donner un exemple.
Allez-y, racontez-nous une histoire encore.
J'avais une goumière qui s'appelait Anne-Claire, je lançais, j'avais pas beaucoup lancé, elle me dit au début du raid, tu sais Stéphane, il m'arrive parfois de partir un peu seul, il faut pas s'en inquiéter. Bon, comme elle c'est déjà quelqu'un qui avait déjà marché, je vais garder ça dans un coin de ma tête sans comprendre pourquoi elle me disait ça. Puis arrive le cinquième ou sixième jour, et là, elle manque à l'appel. Et là, elle avait décidé de passer, donc on la retrouve à la fin du sixième jour, elle avait décidé de passer une journée entière seule, une nuit seule, et une journée encore entière seule. Et là, on voit comment, après 5-6 jours, une personne peut se sentir assez fort pour vivre ce genre de choses. Et ben ça, c'est une expérience de la liberté qu'on peut vivre en goum. Alors, elle a bien fait de me prévenir, parce qu'évidemment, en tant que lanceur, j'aurais été un peu inquiet.
Et vous l'avez pas en guirlandé, ça fait partie de entre guillemets de l'aventure.
Anne-Claire, non,
de pouvoir s'autoriser ce genre de.
Oh, non, on n'enguirlande pas Anne-Claire.
Alors le dernier point que vous voulez souligner, c'était donc la fraternité, et vous vouliez partir donc une fois de plus d'une chose concrète, c'est qu'on marche avec une djellaba.
Ouais.
Racontez-nous.
Alors. Ça peut paraître un peu bizarre de partir de ce port de la djellaba pour la fraternité, mais parce que lorsqu'on met la djellaba, on signifie à soi et aux autres qu'on va vivre quelque chose de différent. Et la djellaba réalise un petit peu une sorte de clôture monastique, c'est-à-dire que le groupe, de fait, il sait qu'il est à part, parce qu'il sait qu'il s'est mis à part pour vivre quelque chose.
Alors la djellaba, juste il faut dire en deux mots, c'est une espèce d'habit un peu grossier avec un capuchon.
Bah, il faut regarder l'habit des goumiers
de la Seconde Guerre.
De la Seconde Guerre, et vous avez la djellaba quasiment.
Bon, voilà, très bien. C'est pour renvoyer vers Internet, bravo. Donc la djellaba.
La djellaba.
C'est une forme de clôture, vous disiez, ou en tout cas, ça, c'est comme un habit de moine. C'est.
Ça réalise. C'est pas comme un habit de moine. Ça réalise une clôture, une sorte de clôture. C'est-à-dire que quand on marche dans le désert, parfois on va se dire mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai choisi ça, mec? Je me suis fait avoir. Quand c'est pour la dixième fois, on dit ça fait 10 fois que je me fais avoir, surtout le deuxième jour. On dit. Et puis tout d'un coup, on voit au loin un goumier qui porte une djellaba. Il dit mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Puis on se dit ah oui, il veut vivre quelque chose d'autre. Et puis alors, on regarde que bah, nous aussi, on a la même djellaba. Ce signe nous rappelle que voilà, on s'est mis à part pour vivre quelque chose d'autre. La fraternité, elle arrive souvent aussi par la voie, j'ai envie de dire, de l'épreuve, quand il y a un goumier qui manque à l'appel, et pour le coup, c'est pas du tout prévu. Et souvent, là, on voit quelqu'un qui vient voir le lanceur qui dit « Oh, j'irais bien aller le chercher ou la chercher tout de suite. » Alors souvent, le lanceur dit « Bah écoute, mange un peu avant, parce que sinon, ça va faire deux personnes perdues. » Donc, et puis on voit ce goumier qui se précipite pour terminer son repas et qui veut absolument aller chercher le ou la brebis égarée. Et voilà, la fraternité se construit petit à petit.
L'enseignement spirituel, alors quel est-il ? C'est quoi ? C'est que quand on est au désert comme ça, qu'on ne cherche pas à se distinguer, je crois qu'aussi on ne donne pas les noms de famille ni les professions.
Alors, on n'insiste pas sur sa profession, effectivement. Les noms de famille, on s'appelle par son prénom, mais ça, c'est classique.
Et donc, il y a quoi ? Il y a une fraternité qui se crée, qui est surprenante pour...
Oui, elle se crée parce que ça peut être éprouvant par moment. Hein. Je me souviens du Goum l'an dernier où on a terminé sur 2 jours de pluie continue. Ah ben là, on a vu des jeunes filles qui se battaient pour prendre le maximum de bois. On faisait un grand feu. Bon, on a vécu des moments durs, donc on voit que la fraternité qui se réalise, elle se réalise aussi parce que dès le début, il y a quelqu'un qui nous tient, qui nous attire. C'est le Christ. Et cette fraternité, elle se réalise parce qu'il y a une communion qui se réalise entre nous. Vous avez dit, on a l'Eucharistie quotidienne. Et on voit que chacun, par le don de soi, j'allais dire créatif, qu'il réalise dans le Goum, apporte quelque chose au groupe.
On va faire une deuxième pause et puis on va retrouver Hermine qui va nous partager ses aventures. Elle n'a pas fait 30 Goum comme vous. Vous en avez fait combien déjà, Père Stéphane Huguejot, 30 ou 50
Je ne compte pas, plutôt 50, mais
voilà.
Je tourne à 3.
Elle en a fait 3 et en tout cas, ce sont des aventures qui l'ont marquée. On fait une deuxième pause et on vous retrouve.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Goum, partir au désert en France, c'est pour rappel donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, les Goum, c'est donc une aventure qui a été proposée par Michel Menu, résistant décédé en 2015, grande figure de la résistance, et qui avait proposé en son temps à quelques jeunes de partir à l'azimut marcher dans les Causses, je crois, ou en tout cas au désert, pendant une semaine. Pour nous en parler, nous étions avec Xavier Xavier Metz au début de cette émission, lanceur de Goum, presque lanceur historique, le père Stéphane Aubugeau, prêtre du diocèse de Cahors, lui-même lanceur de Goum, et donc Hermine Parpaillon, enseignante et goumière. Alors Hermine, on va d'abord un peu expliquer qui vous êtes, avant de comprendre l'aventure que vous avez vécue. Donc vous êtes professeur de français, vous avez 25 ans, vous avez grandi dans une famille chrétienne. Vous m'avez dit, on préparait l'émission, que vous avez fait beaucoup de scoutisme. On n'a d'ailleurs pas parlé du lien de Michel Menu au scoutisme, mais il est important, on pourra peut-être y revenir à la fin de cette émission. Racontez-nous comment vous avez entendu parler des Goum. J'ai cru comprendre que c'était pas une aventure familiale, mais une expérience partagée en famille.
Oui, j'en ai entendu parler d'abord par ma mère, qui en avait fait à la fin des années 80, à la grande période, enfin une période où il y avait énormément de raids. Mais sans savoir s'il existait toujours, si des gens partaient toujours marcher. Voilà.
Un raid, c'est un goum, c'est la même chose ?
Oui, oui.
D'accord.
C'est une semaine de goum, voilà, avec un lanceur. Voilà. Et c'est à une période où j'étais en classe préparatoire, en deuxième année, donc un peu épuisée, en surchauffe intellectuelle. Voilà. Et je suis allée voir sur Internet si les goums existaient toujours. Et je suis tombée sur le site des Goum, qui était une invitation à partir, à la fois parce qu'il y avait des dates très, très concrètes, voilà, et des photos magnifiques qui invitaient juste à... Oui, pour moi, c'était plutôt...
Qu'est-ce qui vous a fait le plus envie en voyant, dans l'expérience que vous partagez, votre maman, c'était quoi ?
Alors, étonnamment, elle nous parlait plutôt du côté difficile, alors que ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. Elle nous parlait d'une expérience très difficile physiquement, mais à la fois dont elle était assez fière, bon voilà. Et c'est un moment où j'en pouvais plus intellectuellement et j'avais besoin de rééquilibrer avec une expérience difficile physiquement. Mmh. Et finalement, ce que j'ai vécu, c'est une réunification.
Alors, vous allez nous raconter tout ça. Vous êtes parti, donc la première fois, c'était l'été 2013. Après, vous êtes reparti en 2015, 2017. On verra, ça correspond à des périodes un peu clés dans votre vie. Vous êtes parti à chaque fois où ? Dans l'Écosse, c'est ça ? Mais alors, l'Écosse, il y en a semble-t-il plusieurs. Il n'y a pas que l'Écosse Méjean. Que le Cosméjean, pardon.
Alors c'est plusieurs causes qui sont joints par des vallées, puisque pendant les Goums, on descend le Cos puis on le remonte, et c'est à chaque fois une expérience de un peu difficile physiquement, mais qui nous soude et qui nous fait aussi chacun lâcher encore des certitudes, lâcher des sécurités qu'on avait pu avoir encore.
Alors on marche à l'azimut, c'est ça ? On fait quoi ? On fait 25 km par jour, pardon, mais du coup je pose des questions un peu plus concrètes.
Non, pas du tout.
Pas du tout. On fait pas 25 km.
Ça dépend des lanceurs. À mon premier goum, j'étais très déçue parce que c'était plus de 15 km.
Oh là là, mais 15 km, c'est de la balade. C'est Euro Disney. C'est... on donnera pas le nom du lanceur.
Non. Non, mais voilà, on met une carte. On sait de quel endroit il faut avoir une carte IGN. Voilà, on apporte sa boussole. Et le matin, on nous donne le point d'arrivée, en nous donnant aussi le point d'arrivée du lendemain, au cas où on ne trouve pas le premier jour. Ce qui est...
voilà. C'est une sécurité, oui.
Donc on marche.
Bien pratique.
On marche donc seul, et puis on se nourrit quoi alors ? On mange un kilo de riz tous les jours, c'est ça à peu près ? Et on boit de l'eau ?
Alors d'abord, on marche seul que si on veut. On est entièrement libre de marcher seul ou en groupe ou avec un autre.
On peut discuter aussi ?
Ah, complètement, oui.
D'accord.
De ce qu'on veut, enfin... Beaucoup pensent au Goum comme une expérience de silence, mais en fait, on est invité au silence parce que les paysages sont magnifiques et qu'on n'a pas envie de remplir ce silence et cette beauté par autre chose que de ce qu'on a sous les yeux.
Vous voyez, donc j'ai transposé mes désirs et mes fantasmes personnels quand je disais en introduction qu'on allait chercher le silence. Alors, vous vouliez revenir sur trois moments qui vous ont frappé et vous allez nous expliquer pourquoi. Le premier moment qui vous est revenu en préparant cette émission, c'était un moment de silence, en l'occurrence, face à un paysage absolument extraordinaire. Racontez-nous ce moment et pourquoi il vous a marqué.
C'était un moment complètement gratuit, offert, où on était en fin de veillée, tous debout devant une vallée donc, entre deux causses qui était embrasée par le soleil couchant, qui était toute rouge. Et justement, personne ne nous avait demandé de nous taire et de regarder en silence, mais on y était appelés, on était attirés par ce paysage magnifique. Et chacun était debout, observé en silence, dans un instant de très très grande présence. Et ceux qui voulaient partaient librement se coucher, parce qu'on savait qu'on avait une journée le lendemain. Et c'était un instant magnifique.
Voilà, un instant d'éternité en tout cas à vous entendre. L'autre moment fort que vous vouliez souligner, alors pour vous c'était presque une expérience spirituelle, pourtant ça part d'une chose très concrète, c'est le soir quand, enfin si j'ai bien compris, le soir ou en tout cas à l'heure des repas lorsque le riz est distribué, on vous met donc, je sais pas si on vous met un kilo de riz dans votre gamelle d'un seul coup, mais en tout cas c'est un moment qui vous a marqué. Racontez-nous de manière peut-être précise et après pourquoi il vous a marqué, qu'est-ce qu'il vous a dit.
Alors chacun part en effet en début de goum avec un kilo de riz dans son sac et au fur et à mesure on prend le kilo de riz de ceux qui ont le plus de mal à marcher très spontanément en fait, voilà. Et chaque jour, chaque matin et chaque soir, ce riz est cuisiné de la façon la meilleure possible parce que comme on a peu en effet, c'est extrêmement soigné. La façon dont le cuit, il y a toujours quelqu'un qui sait à quel moment arrêter très précisément la cuisson du riz.
Voilà, il ne faut pas qu'il croque trop, voilà. C'est ça c'est...
Ni trop, pas trop collant non plus.
Enfin, d'accord, c'est al dente le riz.
Voilà, voilà avec tant de petites choses dedans pour le rendre le meilleur possible et vivre à fond ce moment du repas qui est un moment de fraternité énorme. Et
vous en avez presque une lecture spirituelle, racontez-nous.
Et oui, tout à fait, parce que à chaque tournée de riz, quelqu'un s'offre pour se relever alors qu'on est fatigué et servir et se sert d'un quart de riz, pour faire le tour du cercle. Mmh. Et ça me fait toujours penser à ce verset où on dit c'est une mesure bien tassée, pleine et débordante qui sera versée dans votre tablier. Chacun cherche à donner à chacun le maximum, en espérant qu'il aura aussi encore un peu de riz à la fin, mais sans avoir l'assurance, mais en donnant à chacun sa pleine part.
Alors, je vois le temps qui passe. J'aimerais qu'on passe aux fruits. Vous aviez un autre moment à nous raconter. Peut-être que ça deviendra au fil, quand vous allez nous décrire les différents fruits de ces goums. Semble-t-il, vous avez fait ces goums à des moments clés à chaque fois dans votre vie. Le premier, vous disiez que vous cherchiez un moment d'apaisement. Je crois qu'on peut le dire aussi, parce que vous m'en avez parlé hors antenne. À ce moment-là, vous aviez eu un drame familial. Vous aviez eu un frère qui a eu un accident très grave. Et puis, la deuxième fois, vous y alliez pour réfléchir sur votre vocation. La troisième fois, c'était après une année d'école de vie. Racontez-nous, quels fruits vous avez vu de vos différentes expériences en vous retournant qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces causes et dans ces goums?
Le premier, Xavier l'a dit, et je l'ai redit aussi rapidement, c'est une unification du physique, du spirituel, de l'esprit. Voilà. Puisqu'on est, par l'effort, on est invité à se simplifier. Et c'était un fruit très important, apaisant.
Donc vous étiez revenu apaisé après cette période, on va dire, très difficile d'études et de grands troubles familiaux. Vous aviez retrouvé la paix, la paix des profondeurs.
Oui, oui. Et aussi parce que c'était une coupure du quotidien total, alors marquée par plein de choses, par ce changement d'alimentation, de sommeil, d'habillement. Voilà, et c'était une coupure et un nouveau départ après. Voilà, le second goum, c'était un moment où j'étais un peu noyée dans les choix de questions de vocation, voilà. Je suis d'une famille chrétienne et spontanément je m'étais demandé si oui ou non j'étais appelée à me consacrer. Voilà. Et en me posant beaucoup de questions très très compliquées, en me perdant dans des lectures, beaucoup de choses qui se sont décantées en goum ou par l'effort physique, par l'heure de raison qu'on a, par la messe quotidienne. Où on est appelé à aller directement à l'essentiel. Et en fait, toutes ces questions s'étaient résolues d'elles-mêmes, et je m'étais très vite rendu compte que non, c'était pas ce qui restait de moi en profondeur.
Voilà, et ce qui était intéressant, c'est que vous racontiez qu'en fait, on peut imaginer que, voilà, en marchant comme ça sur le Cosmé-Jean, parfois en silence toute la journée, voire même en s'autorisant à s'offrir, quand on a un lanceur comme le père Stéphane Bougeot, très compréhensif, une nuit à la belle tout seul, enfin, on décolle pas pour autant. Vous disiez que c'est une expérience, en fait, très, très concrète. Oui. C'est probablement la marche qui fait ça.
Oui, c'est très, très incarné, comme l'a dit le père Stéphane aussi. Le goum, c'est une spiritualité des pieds.
Voilà, ça aurait plu d'ailleurs à Luc Adrien, dont c'est un des grands dadas, ce journaliste de Famille Chrétienne qui écrit ce beau portrait de Michel Menu. Alors, le dernier fruit, c'était votre dernier goum, c'était après une année donc, d'école de vie, Philanthropos, cette école de vie donc, en Suisse. Vous me disiez, alors racontez-nous, quel fruit vous en avez vu?
J'étais partie à ce troisième goum, trois semaines après avoir quitté Philanthropos, qui est... Oui, presque une école de vie, on va dire. Voilà, et j'en étais partie très, d'inquiète, désemparée, en me demandant comment Dieu pourrait bien me faire comprendre, même si c'était plus par les frères et sœurs que j'avais eu à Philanthropos.
Donc il faut dire que ces années, donc c'est des années où, voilà, où on a des temps de prière, de formation et une vie fraternelle très forte. Oui. Voilà, c'est parenthèse refermée.
Voilà, et en fait, pendant un goum, pendant simplement 8 jours, il y a une fraternité qui se crée, qui est extrêmement forte, dont on a parlé un petit peu déjà, le père Stéphane a expliqué pourquoi. Voilà, et simplement, en vivant, ça se passe dans le service, dans simplement des sourires échangés, des conversations profondes ou pas, ou simplement des veillées fraternelles. Voilà, il y a un lien qui se crée de nouveau extrêmement fort, et je m'étais simplement rendu compte que partout où il y a un groupe, il y a Dieu, et Dieu nous fait passer son amour à travers les frères et sœurs qui nous donnent, même pendant quelques jours.
Eh ben, merci beaucoup Hermine Parpaillon d'être venue au micro de Vivante Église pour nous partager cette belle expérience des goums. En tout cas, votre lanceur, je ne sais pas s'il a été votre lanceur, a l'air d'être content de vous puisqu'il vous fait des signes, c'est super. Quelques informations pratiques pour finir cette émission. Le 2 avril prochain, donc, il y a une auberge goum au séminaire Saint-Cyprien à Toulouse. Ça sera à 19h30, on aura le temps de le rappeler. Une auberge goum en quelques mots, qu'est-ce que c'est, Père Stéphane Bugeaud?
Chacun apporte de quoi manger. Et pas forcément du riz, là, vous pouvez...
Oui, mais le but, en dehors du repas, c'est...
Après, en dehors du repas, bah, on discute, on se retrouve entre goumiers. C'est l'occasion aussi de parler des projets de chacun. Par exemple, si quelqu'un veut lancer, Hermine, si elle veut lancer un jour. Si moi, on a besoin. Et puis, on va faire aussi un temps de présentation. Alors, évidemment, c'est au séminaire, donc on va peut-être le proposer aussi aux séminaristes. Vers 20h45, une fois qu'on aura discuté, on sera un peu restauré, un temps de présentation pour que ceux qui sont invités par des amis qui ne connaissent pas encore puissent...
Donc c'est un temps de présentation des goums aussi, ouais. Pour le grand public. Voilà, donc c'est le 2 avril prochain au séminaire Saint-Cyprien. Et puis un site internet www.goums.org. Et enfin, je donnerai un ouvrage, Les goums, une expérience de liberté, paru aux éditions CLD, qui a été donc écrit par Michel Menu, le fondateur de cette grande aventure. Un grand merci à vous d'être venu ce matin au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.